Agir pour le futur, le magazine de l'impact proposé par Ecofi, présenté par Fabrice Coustet.
Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Agir pour le futur, un podcast proposé par Ecofi. Vous le savez, c'est une série de 6 podcasts à suivre tous les mois sur les enjeux, les impacts et les opportunités des transitions. Alors, on le sait, la population mondiale ne cesse de s'accroître, de 3 milliards dans les années 60, on a doublé en 50 ans pour atteindre 6 milliards dans les années 2000 et on devrait atteindre les 9 milliards d'individus en 2037. L'ONU estime même que la population devrait se stabiliser autour de 10 milliards après 2055. La question du jour, comment nourrir tous ces êtres humains ainsi que les animaux que nous élevons? Quelles sont les solutions possibles en termes d'agriculture? Faut-il trouver de nouveaux systèmes, passer de la culture extensive à la culture intensive, réinventer notre façon de penser les sols et le vivant? Et puis au-delà de ces considérations, que pouvons-nous faire, nous, épargnants, pour participer avec notre épargne à favoriser une agriculture plus harmonieuse, respectueuse de la nature? Pour faire le point sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Dufumier. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous êtes agronome et enseignant-chercheur, spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution. Vous avez notamment dirigé la chaire d'agriculture comparée de développement agricole à AgroParisTech de 2002 à votre retraite en 2011. Et lançant que la retraite est active. On accueille également Olivier Plaisant. Bonjour Olivier.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur de la gestion action chez Ecofi. Et on va ainsi voir comment, à travers les fonds, on va pouvoir agir également. Mais tout d'abord, pour poser les bases du sujet, Mathilde Salama est sur le plateau. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
C'est parti pour l'édito.
Agir pour le futur, l'édito.
Bonjour. 9,5-10 milliards d'êtres humains à horizon 2050. Ce qui est sûr, c'est que nous serons de plus en plus nombreux à vivre et à manger sur une terre de plus en plus étroite, avec des zones de moins en moins vivables ou exploitables. Le rapport 2020 des Nations Unies sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde montre que la bataille est loin d'être gagnée. En effet, pour la 5e année consécutive, la course contre la faim continue. 680 millions d'individus sont sous-alimentés, soit près de 9% de la population mondiale. À l'échelle européenne, plus de 10% de la population la plus modeste souffre d'insécurité alimentaire. Pourtant, ce phénomène n'est pas dû à un manque de production mondiale, mais à une mauvaise répartition des richesses produites. En effet, incapables de subvenir à leurs besoins économiques, les producteurs et travailleurs alimentaires représentent 50% des personnes souffrant de la faim. Et 3 milliards d'individus, soit près de la moitié de la population du globe, n'ont pas les moyens financiers pour accéder à des régimes alimentaires sains et sont donc à risque de malnutrition. Alors, comment gérer les problèmes de répartition et de gaspillage? Comment accompagner cette transition juste afin de mieux équilibrer la dichotomie entre, d'un côté, des populations sédentaires qui consomment trop et, de l'autre, des populations qui souffrent? Et comment réussir à tous nous nourrir sans impact sur notre santé? Enfin, comment utiliser le soleil, source inépuisable d'énergie, et préserver l'eau qui, elle, est de plus en plus rare? Ce sont les grands défis que nous devons intégrer dans nos investissements dès aujourd'hui.
Merci Mathilde. Mathilde Salama, directrice communication et RSE d'Ecofi. Tout de suite, place au débat.
Agir pour le futur, le débat.
On démarre ce débat avec une première question pour vous, Marc Dufumier. C'est vrai qu'on l'a noté, Mathilde l'a noté dans son édito, on note un grand paradoxe. Une partie de l'humanité mange trop et une autre meurt de faim. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas assez de ressources? Est-ce qu'elles sont mal réparties? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose?
Alors, très clairement, il y a pléthore de nourriture aujourd'hui disponible sur le marché mondial. Et c'est bien la pauvreté de gens trop pauvres qui ne parviennent pas à acheter cette nourriture et qui pourtant existe sur le marché. C'est vrai en France, les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, les aides alimentaires et autres, souffrent de la faim et n'ont pas toujours accès à cette nourriture. C'est vrai au Brésil, des gens qui sont dans les bidonvilles, qui étaient peut-être agriculteurs, leurs parents étaient agriculteurs, mais sont tombés en faillite, ont rejoint les bidonvilles. Dans les bidonvilles, il n'y a pas d'emploi, et ils ne parviennent pas à acheter du maïs, du soja, qui sert à nourrir nos cochons. Et c'est vrai, évidemment, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans des pays où on se spécialisait en café et cacao, où on n'a pas accès à de la nourriture, alors qu'il n'est pas produit chez eux, ou insuffisamment chez eux. Ça, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de pays où on ne produit pas assez d'aliments pour nourrir le peuple, et ils sont dépendants des importations. Avec l'argent du café et du cacao, ils ne parviennent pas à acheter de la nourriture en quantité suffisante. Et le pléthore de nourriture, il faut 200 kilos. Hein. La norme, c'est un peu ça, pour nourrir correctement quelqu'un, avec y compris un peu d'aliments pour les animaux, pour la viande, le lait et autres. Eh bien, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales ou d'équivalent sous la forme pomme de terre, manioc, quinoa.
Par an.
Par an.
Ouais.
Et la production mondiale, elle est déjà de 330. Et le surplus des 130, eh bien, c'est des gens riches qui achètent, mettent dans le frigo, la date de péremption est passée et hop, ils ont jeté à terre. C'est parfois aussi des grands des moyennes surfaces qui trouvent que les tomates ne sont pas bien calibrées et donc jettent ça à terre. C'est aussi de la
nourriture. Pas assez joli, effectivement.
Voilà, oui, pas assez joli. La pomme présente quelques petites taches de tavelure. Et c'est aussi de la, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc de la nourriture qui échappe à des pauvres, mais qui sert à nourrir des cochons, des volailles, des ruminants. Et puis c'est aussi aujourd'hui de plus en plus de la nourriture qui échappe à des pauvres, mais qui est achetée par des usines d'éthanol, par des usines d'agrodiesel, pour donner à boire à des voitures.
Effectivement, les biocarburants, comme on les appelle, et qui engouffrent effectivement 10 milliers de tonnes de céréales par an. Donc on l'a noté, plutôt un problème de revenus. On va quand même vous poser de but en blanc la question, comment nourrir 10 milliards d'êtres humains? Est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut par exemple doubler la production végétale pour nourrir donc autant d'êtres humains et d'animaux à horizon 2050?
Alors la réponse, évidemment, c'est la première. Non, si on pouvait redistribuer un peu mieux les revenus à l'échelle mondiale, ce serait quand même mieux. Et n'oublions pas que les gens qui ont faim, pour 50%, on disait, mais un peu plus, ce sont des paysans qui ne parviennent pas à être compétitifs face à nos exportations de surplus, de blé, de sucre et autres. Et, ou alors des gens qui ont fait faillite et ils ont rejoint les bidonvilles. Mais oui, dans les pays déficitaires, et il y en a beaucoup, surtout dans ce qu'on appelait le Sud, on appelait ça tiers-monde autrefois, il nous faut impérativement doubler la production végétale pour pouvoir à la fois nourrir les gens et nourrir éventuellement un peu mieux les animaux. Parce qu'effectivement, il y a dans les pays émergents des gens qui sortent de l'extrême pauvreté, commencent à consommer davantage de viande, boire davantage de lait. Et comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour produire une calorie animale, la demande en production végétale va effectivement plus que doubler d'ici 2050.
Mais c'est possible.
Et alors, la réponse est très clairement, c'est possible. Les calories alimentaires dont nous avons besoin, l'énergie, nous vient du soleil, il a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de pénurie annoncée avant des milliards d'années. Ces calories, c'est du sucre, de l'amidon, des lipides, sont des hydrates de carbone, et la plante intercepte le carbone dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Il n'y a pas de pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y en a trop, il y a pléthore. Alors la plante, c'est la photosynthèse, intercepte le gaz carbonique, libère l'oxygène, intercepte le carbone, fabrique le sucre, l'amidon, les lipides, donc nourriture, et même peut-être que dans la paille et les racines, quand ça se décompose, fabrique de l'humus et séquestre du carbone dans les sols. C'est plutôt bien.
Voilà, petite cours en accéléré, pour ceux qui avaient oublié leur cours de biologie, de 4e ou 3e, je ne sais plus exactement. C'est très clair. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi changer de modèle? C'était une des questions. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de pesticides, d'engrais chimiques. Est-ce qu'on peut continuer de cette façon? On voit aussi que la Terre s'épuise en utilisant de tels effets.
Oui, c'est surtout que les produits en seed contribuent à détériorer la biodiversité. Et l'agriculture moderne de demain, je vous le dis tout de suite, qui pourra effectivement nourrir la population, ne tuera plus, elle n'éradique plus. Elle vivra avec les ravageurs, les agents pathogènes, les herbes concurrentes, mais on va minorer la prolifération, on va minorer les ravages avec des variétés tolérantes. Ça va être ça l'agriculture moderne de demain. Et en jouant sur la diversité des espèces cultivées dans un même lieu, eh bien, on parvient à rendre très difficile la propagation des insectes ravageurs, champignons pathogènes. Donc oui, on y arrivera, mais effectivement, et en plus, ces systèmes extrêmement diversifiés sont plus résilients face aux périls climatiques, face aux dérèglements climatiques, un climat de plus en plus aléatoire, l'eau très mal répartie, soit trop, soit pas assez. Et bien, effectivement, quand vous diversifiez les activités, les diversifiez les productions, vous êtes atteint par un accident climatique extrême, une sécheresse, une inondation, tous vos revenus ne sont pas affectés. Et donc, vous retrouvez un niveau de vie à peu près décent. Et pareil pour l'écosystème, s'il est affecté par un accident climatique, il retrouve ses potentialités productives bien plus vite en diversifiant les productions au sein des fermes, au sein des terroirs, au sein des pays.
Voilà, bon, on va revenir dans un instant justement à ce qu'on peut faire, notamment sur l'eau. Est-ce qu'il y a des initiatives intéressantes? Mais je voudrais demander également au financier, Olivier Plaisant, hein, Marc Dufumia vient d'évoquer des changements souhaitables, sinon nécessaires pour nourrir demain près de 10 milliards d'individus. Est-ce que la finance a un rôle à jouer dans cette transition agroécologique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour aider les épargnants à participer et à être finalement acteurs du changement?
Eh bien, je crois qu'on peut effectivement, orienter nos investissements et sensibiliser les épargnants à ces problématiques. Alors, chez Ecofi, on est acteur par le biais de nos investissements solidaires. Investissements solidaires qu'on trouve dans nos fonds solidaires. Et on a identifié trois axes d'investissement. Le premier axe, c'est l'alimentation saine et biologique. Le deuxième axe, c'est le commerce équitable. Le troisième axe, c'est la réinsertion par l'activité économique et par le travail adapté.
D'accord. J'ai l'impression aussi, quand on parle des épargnants, qu'eux-mêmes ont pris conscience de ce changement et de plus en plus ont envie que leur épargne serve à quelque chose. Du coup, ce que vous venez de nous citer, est-ce que les épargnants sont appétents à effectivement investir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire alimentation biologique, commerce équitable ou réseau solidaire?
Oui, absolument. Les épargnants ont une appétence pour ça parce que d'abord, il faut leur expliquer dans quoi ils investissent, quelles sont les structures dans lesquelles ils investissent. Par le biais de fonds ouverts et aussi par le biais de l'épargne salariale. Dans l'épargne salariale des grands groupes, eh bien, on peut trouver des fonds solidaires.
Est-ce qu'on a d'autres véhicules d'investissement? Quels sont-ils pour justement demain, pour ceux qui nous écoutent, eh bien, se dire, voilà, moi j'ai envie de participer, comment je fais pratiquement?
Les véhicules d'investissement solidaire sont bien évidemment les premiers véhicules et peut-être vous donner quelques exemples de structures dans lesquelles nous investissons. Hein. Par exemple, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB, qui fédère par les organisations adhérentes qui la composent, les agrobiologistes des régions de France, qui joue un rôle d'animation de réseau, de groupement d'agriculteurs biologiques, d'interface entre son réseau, les organisations européennes ou mondiales de la bio. C'est elle qui a créé le logo AB, qui a été repris par l'Union européenne. Voilà, l'investissement et l'aide au financement à ce type de structure peut être fait par le biais de nos fonds. On peut aller dans des structures encore plus petites, hein, je vais vous citer un exemple qui est l'herbier du Diwa. Le Diwa, c'est la région de Di. Et l'herbier du Diwa, c'est une entreprise d'exploitation de plantes aromatiques et biologiques. Transformation de plantes médicinales, commercialisation de plantes aromatiques. Les fournisseurs, c'est des petits producteurs de la Drôme, le massif rhône-alpin notamment. Et les clients, c'est les magasins bio, les grossistes agroalimentaires, les labos pharmaceutiques. Ça, c'est le moyen de pouvoir investir dans cette taxe qui est l'alimentation saine et biologique.
D'accord. Donc, finalement, on est acteur en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'épargnant.
En tant que consommateur, en tant qu'épargnant, il y a une sensibilisation aussi à ces systèmes. On investit, par exemple, dans une structure qui s'appelle Ethicable. Ethicable, vous avez peut-être vu dans les ouais. supermarchés les différents produits. Alors ça, c'est Ethicable, c'est une coopérative de commerce équitable alimentaire hein, qui est issue principalement de l'agriculture biologique. Alors ce que je voudrais signaler, c'est que c'est une réussite financière parce que c'est une très belle structure et sans aide de l'État. Donc ça, c'est quand même pour nous, investisseurs, c'est remarquable. Hein. On investit aussi dans des structures comme Solidar Monde, c'est le réseau d'achat la centrale d'achat du réseau artisan du monde. Donc c'est des produits alimentaires, mais pas que. Il y a de la cosmétique, il y a des produits artisanaux. Et puis il y a un rôle social important et un rôle, c'est la réinsertion par l'activité économique et le travail adapté. Et là je voudrais citer un exemple qui est absolument remarquable, c'est le réseau Cocagne. Le réseau Cocagne, c'est un réseau de jardins de maraîchage, de fermes biologiques à but d'insertion sociale et professionnelle. Donc le projet social, c'est de donner du travail à des personnes qui sont exclues, et distribuer des paniers de légumes bio à des adhérents. Vous pouvez en acheter, hein, c'est pas... Et en même temps, c'est aussi un travail sur l'accessibilité alimentaire. Hein. Il distribue des paniers pour les personnes qui vivent en situation de précarité. Alors c'est des structures assez importantes. Hein. C'est plus de 100 fermes biologiques, plus de 1400 points de dépôt. partout en France, c'est plus d'un million de paniers bio. Voilà.
C'est pas mal, on peut s'y mettre effectivement, il y a des choses à faire. Marc Dufumier, est-ce que ça va suffire quand on entend ce type d'initiative effectivement équitable, de plus en plus de fermiers, d'agriculteurs qui passent en bio, est-ce que demain, pour les défis qui nous attendent, ce sera suffisant ou il faut vraiment un passage à l'échelle?
Alors il faut sans doute un changement d'échelle, hein. La croissance de la consommation de produits bio, elle est à deux chiffres depuis déjà plusieurs années. Enfin, en France, ça y est, le nombre de producteurs et les surfaces commencent aussi à s'accroître avec une croissance à deux chiffres tous les ans. Donc ça, c'est plutôt favorable. L'agriculture biologique est plus artisanale, exige plus de travail. Elle est intensive en emploi, hein, ne l'oublions pas. Et doit être correctement rémunérée. L'idée du commerce équitable, hein, on citait Éthicable tout à l'heure, l'idée du commerce équitable, c'est que le consommateur est prêt, en général, pour la qualité du produit. Parce que vous savez, le paysan qui bénéficie du commerce équitable et d'un prix un petit peu supérieur au prix du marché a vite compris qu'un militant ne continuera pas d'acheter le produit s'il est mauvais. Donc il y a derrière l'utilisation de ce petit prix supplémentaire que nous consacrons au commerce équitable, il y a tout de suite chez les agriculteurs l'effort de créer des filières qui soient effectivement biologiques, durables, sans préjudice pour les générations futures, sans préjudice pour la biodiversité. Et ça, c'est plutôt bon. Alors à l'échelle politique, un jour, il faudrait peut-être aussi que les gouvernements sachent rémunérer les services environnementaux. Quand un agriculteur séquestre du carbone dans les sols, c'est de la séquestration, c'est un service d'intérêt général. Quand il met des légumineuses, vous savez, qui produisent des protéines avec l'azote de l'air, sans qu'on ait recours aux engrais azotés, qui sont très coûteux en énergie fossile, très émetteurs de protoxyde d'azote, un gaz très réchauffant, un gaz à effet de serre, eh bien, il mériterait d'être rémunéré. Quand il met des infrastructures écologiques capables d'héberger des abeilles, des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, qui nous éviteront les pesticides, ce sera très bon pour notre santé, eh bien, rémunérons-les. Pour l'instant, c'est vrai, c'est quand même le consommateur du commerce équitable qui paye, mais à la limite, le contribuable, c'est-à-dire les subventions que nous donnons déjà aux agriculteurs français, plutôt que d'être proportionnel à la surface, rémunérer correctement les agriculteurs, et puis après, la finance les aide à investir, parce qu'on oublie un peu que les fonds solidaires, là, c'est très important, parce que l'agroforesterie, mais il faut quand même des arbres, et la croissance d'un arbre, ça met du temps, c'est comme un investissement initial. Alors là, je pense effectivement que les fonds solidaires, c'est très, très important.
Ouais, vous prenez le changement de modèle, un modèle d'agriculture extensive à une agroécologie. Mais justement, ce modèle d'agriculture intensive, il est consommateur en ressources humaines. Est-ce qu'il est possible demain?
Alors, c'est effectivement, moi je suis contre l'agriculture extensive. Vous savez qu'il y a besoin d'extension, on défend la forêt amazonienne, la forêt congolaise, on va tout déforester, on élargit.
Donc, on fait une seule culture.
Alors que, oui, souvent avec une seule culture, donc c'est l'atteinte à la biodiversité. Une agriculture intensive qui fait l'usage intensif des rayons du soleil, du carbone, du gaz carbonique, de l'azote de l'air, qui fait un usage intensif des abeilles, qui fait un usage intensif des coccinelles, qui fait un usage... Mais c'est aussi soigné, c'est très diversifié, c'est artisanal, c'est soigné, c'est bichonné, c'est intensif en emploi, intensif en travail, il faut le rémunérer correctement.
Mmh. Est-ce que, à terme, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que justement cette alimentation, si elle est bio, si elle est éthique, si elle rémunère correctement, elle ne va pas finalement coûter plus cher aux consommateurs que nous sommes et se faire, du coup, Mathilde en parlait dans son édito, au détriment des plus pauvres qui ne vont pas pouvoir se payer cette alimentation de qualité. Ça voudrait dire des produits de bas de gamme pour les plus modestes et produits bio pour les plus riches, ce qui creuserait encore les inégalités.
Un vrai problème, hein. Moi, je suis contre l'agriculture à deux vitesses. L'agriculture biologique pour les bourgeois bohèmes, aisés, pour s'acheter de la bonne nourriture, sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens. Et puis les couches modestes, ils auront les perturbateurs endocriniens, les hormones, les antibiotiques. Ça, je suis totalement contre.
Et les problèmes d'obésité.
Et les problèmes d'obésité, absolument. Alors là, c'est souvent trop de sucre, trop d'acides gras saturés. Et donc, je pense que si nous rémunérions les services environnementaux, il y aurait plus de gens qui évolueraient vers ces formes d'agriculture, il y aurait une offre accrue, et le bon produit bio qui en résulte pourrait être vendu moins cher et accessible aux couches modestes.
Mmh. On sait que l'eau va être également un problème majeur. Est-ce qu'il y a des initiatives intéressantes, là justement, parler de la mauvaise répartition?
Ça nécessiterait une autre émission, mais enfin, on peut quand même souligner quelques véhicules d'investissement. Et là, on n'a pas besoin d'aller chez les... petit, hein, on peut, dans nos fonds, on a investi dans une société américaine qui s'appelle Evoca Water. Alors c'est C'est une société qui fait quand même capitalisation de 4 milliards de dollars. Hein. C'est pas rien.
Donc c'est pas la PME du coin.
200 000 installations dans le monde. Alors, ils sont actifs, évidemment, dans tout le traitement des eaux usées. C'est la conversion des matières organiques en dioxyde de carbone, en nouvelle biomasse. Donc, on rejoint ces sujets. Ce sont des sociétés qui sont très innovantes. Et ça nous plaît parce qu'on a besoin aussi d'innovation pour adresser ces sujets. Cette société a une partie de son activité qui est spécialisée dans le traitement des contaminants d'intérêt émergent, c'est les fameux perturbateurs endocriniens, les micropolluants. Il faut savoir que c'est une société qui est basée aux États-Unis. Hein. Il y a plus de 100 millions d'Américains qui sont concernés par des problèmes d'eau potable contaminée par les perturbateurs endocriniens, donc c'est pas rien, ou d'autres substances toxiques. Voilà, ça c'était un rapport de l'Environmental Working Group. Au-delà de ça, ils ont aussi une flotte d'installations mobiles de traitement des eaux qui peuvent être déployées sur des sites sinistrés. C'est ce qui se passe quand il y a des tempêtes, des ouragans, etc. Voilà, donc ce type de société, il faut faire un travail de recherche pour les trouver et on peut investir. Et quand on investit dans ces sociétés, ce n'est pas pour faire des coups de bourse du jour au lendemain.
On sait que ça va mettre du temps. C'est du temps long. Temps,
et surtout, on investit dans de l'innovation.
On a vu tout à l'heure, à travers les exemples d'Olivier, que les initiatives solidaires existent, Marc Dufumier. Vous nous avez dit que ce n'était pas une question de capacité de production, la terre est généreuse, mais plutôt de répartition de la nourriture. Quels sont les freins aujourd'hui pour mieux répartir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement, dès aujourd'hui, mieux répartir nos ressources?
Alors, il y a des questions hautement politiques sur les accords internationaux, de ne pas mettre en péril les gens qui travaillent encore à la main et avec la culture attelée, avec nos excédents de blé, bas de gamme et autres. Et un pays comme la France pourrait très aisément exporter moins de blé, moins de, surtout de sucre ou autre vers les pays du Sud, et davantage retrouver sa souveraineté protéinique, moins porter de soja, de tout soja transgénique de surcroît en provenance du Brésil, et ce ne serait pas faire du tort aux Brésiliens. Quand je suis au Brésil et que je dis l'Europe devrait retrouver sa souveraineté protéinique en protéines végétales, ils me disent que eux, Brésiliens, ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, nos volailles. Ils préféraient nourrir des Brésiliens. Donc, je pense que tout l'intérêt de ces démarches un peu alternatives dont on parle là, c'est aussi d'interroger les décideurs politiques pour qu'au moment où on discute beaucoup biodiversité et autres, et adaptation au réchauffement climatique, on prenne des décisions macroéconomiques qui permettraient évidemment aux paysanneries de tous les pays du monde de pouvoir nourrir leur propre peuple en faisant un usage intensif de ce qui coûte rien et sans détruire la biodiversité et sans polluer les eaux avec les perturbateurs endocriniens.
Voilà, le changement de modèle, donc c'est possible, on l'a bien compris. Une dernière question pour Olivier Plaisant. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ces thématiques, qui souhaitent investir dès aujourd'hui leur épargne, quels sont les fonds, Olivier Plaisant, que vous proposez?
Ce sont évidemment les fonds de notre gamme, fonds solidaires, qui sont investis dans l'économie sociale et solidaire, qui visent à financer des projets d'utilité sociale et environnementale, réinsertion par l'emploi, développement durable, économie verte. Alors il y a les structures dont j'ai parlé lors de ce débat. Et puis aussi d'autres structures qui sont liées à la microfinance, au logement très social, à l'éco-construction, au handicap, parce que tout est lié finalement. Donc les principaux fonds pour investir dans ces thématiques sont Ecofi Agir pour le climat et Choix Solidaire.
Voilà, Choix Solidaire et Ecofi, Agir pour le climat, deux fonds qu'on peut déjà, d'ores et déjà trouver sur les différentes plateformes, les assurances vie, etc., pour investir et se préoccuper de cette problématique. En tout cas, un grand merci à nos deux invités du jour. Merci Marc Dufumier.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes agronome enseignant-chercheur, spécialiste des systèmes agraires avec beaucoup d'idées, de bonnes idées. On espère que vous serez écouté par les politiques. Merci également à Olivier Plaisant, directeur de la gestion Action Ecofi. Merci Mathilde Salama pour l'édito. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro d'Agir pour le futur.
Agir pour le futur, le magazine de l'impact proposé par Ecofi, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.